Température minimale, moins 24 degrés. Température maximale, moins 13 degrés. Lever du soleil à 11 heures, coucher à 15 heures. Dépaysement total, froid intense. On a le souffle coupé, non pas parce que le fond de l'air est frais, mais parce que les paysages sont de toute beauté. Nous sommes en Laponie, avec la neige à perte de vue, des forêts tout en blanc, des lacs gelés, de vastes étendues sauvages, un merveilleux silence, un habitant et trois rennes au kilomètre carré. Cet éblouissement dont on ne se lasse pas jour après jour. Assurément, Lorraine Fouché, auteure de « Jamais là par hasard », publiée aux éditions Héloïse d'Ormesson, sait planter les décors. Elle a aimé la Laponie, peut-être devrais-je dire adoré la Laponie, ses habitants, sa nature, ses spécialités culinaires et l'enthousiasme de la romancière, comme dans chacun de ses romans, est hautement transmissible. Mais là-bas aussi, la vie est faite de drames, petits et grands, de réjouissances et de hasards plus ou moins bienvenus. Et c'est tout cela qui anime les trois personnages principaux de « Jamais là par hasard », qui vont accepter un voyage de trois jours en Laponie, sans savoir à quoi s'attendre. Ils ont dit oui à ce séjour sur un quiproquo, et maintenant, ils se demandent ce qu'ils font là, en pleine nature, dans un chalet super cosy où ils seront notamment accueillis par une chef cuisinière et un guide. Et surtout, qui les a réunis? Il y a Flore, divorcée et mère de deux enfants, qui déprime quand sa progéniture est chez leur père. Ambroise, journaliste, qui vient d'être licenciée. Et la plus jeune, Arwen, qui est en rémission après avoir été malade 2 ans durant. Rien ne prédestinait ces trois-là à bien s'entendre. Mais ils ont quelque chose en commun. Ou plutôt, quelqu'un. Mais je ne vous en dirai pas davantage. Lorraine Fouché aime les coups de théâtre, s'amuse à transformer l'improbable en probable et surtout a le don d'emboîter peu à peu les destins les uns aux autres pour les transformer et leur insuffler un nouvel élan. Au programme, pêche sur glace, promenades en raquettes et en motoneige, balades en traîneau et chasse aux aurores boréales. Mais surtout, des remises en question, des colères, des réconciliations, des confessions, des larmes et des rires. Bonjour Lorraine Fouché, je suis heureuse de vous accueillir à Secret d'écriture. Quelle a été votre première source d'inspiration pour « Jamais là par hasard » La Laponie, un personnage, un sujet en particulier?
La Laponie, bien sûr, parce que le cercle polaire arctique, ça fait rêver. Et puis un accident. Un jour, j'étais en promenade avec des traîneaux à chiens. J'avais une amie dans le traîneau devant et moi, toute contente, toute fierotte, j'étais derrière. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les chiens ont arrêté de courir après la mûcheur, la dame qui dirigeait le traîneau devant. J'ai été éjectée. Cette amie a continué à être dans le traîneau avec la meute qui courait. Et puis, affolée, mais calme, elle a sauté. Et je me suis dit que je l'avais tuée, qu'il s'était passé quelque chose. Et puis, vous savez, quand on est écrivain, on a toujours dans la tête un petit carnet et un petit crayon mental. Et je me suis dit, ça, cette peur-là, ah, je vais la partager et je vais en faire de la beauté ou de l'émotion. Voilà.
Et donc, vous vous êtes inspiré en effet de cet événement.
Absolument.
Qui est au cœur de votre roman. Donc, vous avez adoré la Laponie, je ne me trompe
oui,
pas.
Oui, non, mais le mot était bien. J'ai adoré la Laponie. Comme je suis gourmande, j'ai adoré tout ce qu'on y a mangé. Et puis, je partage ma vie entre les Yvelines et l'île de Groix en Bretagne. Mes derniers livres étaient sur cette île. Et c'est le pays des heures douces. Et j'ai pensé que passer du temps et emmener les lecteurs dans le pays des heures bleues, bah, c'était bien aussi, ça change.
Oui, vous en parlez très très bien, on a très envie d'y aller. Hein.
Venez, venez.
Je n'ai pas parlé d'Emma, journaliste, et de Marceau, son stagiaire, qui sont, après tout, ceux qui tirent les ficelles de votre histoire. Pouvez-vous nous les présenter sans trop en dévoiler?
Alors, Emma et Marceau, Marceau est le stagiaire. On demande à Emma d'aller tourner un petit sujet pour la télévision française sur la Laponie. Il va se passer quelque chose qui fait que, au lieu d'être juste des personnes qui travaillent encore, des collaborateurs pour un projet, ils vont devenir plus que ça. Ils vont avoir une mission, et pour se regarder dans la glace, pour continuer à vivre, pour continuer à être capable d'aimer, il va falloir mener cette mission à bien. Alors l'une a l'âge d'être la grand-mère de l'autre, mais ils deviennent un peu frères et sœurs d'une certaine manière, juste en 4 jours et une température très basse.
Quel est le personnage qui vous ressemble le plus, s'il y en a un?
Mais il n'y en a pas, en fait. Certainement pas la cuisinière, parce que je ne sais pas du tout faire la cuisine, sauf le soufflé au fromage. C'est vrai que Arwen, je réfléchis pour l'appeler Arwen, parce que je voulais appeler Arwen Aouregan, et ma délicieuse éditrice Héloïse Dormesson m'a dit « c'est trop compliqué ». Donc voilà, Arwen s'appelle Arwen, elle a 19 ans. La chance qu'on a en tant qu'écrivain, c'est de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un de 19 ans. J'ai eu 19 ans, donc je dirais que c'est peut-être elle, mais j'ai l'âge d'Emma. Donc on est toujours un petit bout, c'est comme un puzzle un livre, on est un petit bout de chacun.
La famille est l'un de vos sujets de prédilection. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans les familles, Lorraine Fouché ?
Alors, moi, je suis fille unique, donc je n'ai pas eu de frères et sœurs. Et j'ai toujours des frères et sœurs. J'aime bien imaginer les rapports de fratrie. Et puis, malheureusement, mon père est mort un mois après mon bac, l'été de mes 17 ans. C'est vrai qu'il me manque encore, même si ça fait des années maintenant. Et il y a toujours des pères dans mes livres, donc... Voilà, on est comme le marionnettiste, je tire mes ficelles et je me retrouve en famille avec des grands frères protecteurs et des petites sœurs aimantes.
D'ailleurs, Emma dit, page 137, les liens entre père et fille, c'est spécial. En quoi sont-ils spéciaux, ces liens ?
Oh, alors, le fait que mon père soit mort quand j'avais cet âge-là, on a eu le temps de s'aimer, on n'a pas eu le temps de se parler parce que je pensais qu'on avait toute la vie devant nous, mais on n'a pas eu le temps de s'engueuler non plus. Parce que 17 ans, c'est l'âge où ça va encore. Bon, il n'était pas d'accord sur l'heure à laquelle je rentrais le soir, le samedi soir, c'était minuit. Et il attendait, il s'appelait Christian Fouché, c'était un ministre, il mesurait 1m96 et il était en pyjama rayé comme dans les films de Cary Grant. Et quand mon cavalier du soir me raccompagnait, il lui serrait la main en disant « merci » et il appelait par son nom de famille, puis il refermait la porte. Donc on n'avait pas le temps de s'embrasser, on n'avait le temps de rien du tout. Mais ouais, les pères et les filles, ben je continue à tenir la main de mon père dans mes livres. Et souvent, j'aime bien les réseaux sociaux parce que les lecteurs, les lectrices, il y a plus de femmes qui lisent des romans, peuvent interagir avec ce qu'on écrit. Et il y a souvent des lectrices qui me parlent de leur père à travers les miens. Donc, tout ça est une joyeuse sarabande.
Je ne dévoilerai pas le contexte dans lequel Arwen dit ceci. J'ai toujours su que je n'étais pas légitime pour l'amour. C'est quoi être légitime pour l'amour ?
Moi, en tant qu'écrivain, c'est mon 25e roman, je crois, publié. Mais j'ai toujours l'impression de ne pas être légitime, c'est-à-dire à chaque fois je me dis « j'ai su raconter une histoire les 2 fois, 10 fois, 20 fois, 24 fois avant, mais peut-être que je ne vais pas savoir, peut-être que ça ne va pas marcher, peut-être qu'en fait je ne sais pas faire ça. J'ai une nièce d'adoption qui m'a dit ça l'autre jour, parce que quand on a 20 ans, et une histoire d'amour, quelquefois, on se dit « ça va pas ». Et elle m'a dit ça, et je me suis dit « mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que ça va pas nous arriver, qu'on sait pas faire ça ». Alors qu'évidemment, on est tous légitimes pour l'amour, pour le rêve, et pour oser. Donc voilà, j'aime bien de temps en temps épauler comme ça les lecteurs de tous âges.
Parler à ceux que l'on aime avant qu'il ne soit trop tard est au cœur de votre roman. Pensez-vous que c'est crucial, vital dans la vie ?
Je crois que la parole est magique, qu'elle démystifie, qu'elle ose. C'est mon métier maintenant, c'est mon métier et c'est ma passion. Quand j'étais médecin, je soignais les gens, je soignais les patients. Maintenant, j'écris pour les impatients de lire. Les mots, c'est notre harnais quand on est à la gîte en bateau. Donc, ouais, je crois qu'il faut parler, il faut dire, il faut oser. Il y a une phrase en italien que j'aime bien qui est « peggio che non, non si può dire. Ça veut dire pire que nous, on ne peut pas vous dire. Donc, osons dire, osons demander. Et oui, les absents, les gens, les grands-mères, les parents, les... faut oser dire parce qu'un jour, on ne peut plus. J'ai publié un livre qui est très important pour moi qui s'appelle « J'ai rendez-vous avec toi » chez Héloïse d'Ormesson. Il existe aussi au livre de poche. Et c'est « J'ai pas eu le temps de parler à mon père autant que je voulais, mais j'ai eu le temps de lui écrire parce que j'ai la chance d'écrire des livres. » Et puis, l'objet livre, une fois qu'il arrive sur la table de chevet ou dans le sac de quelqu'un, permet de parler aussi et au personnage qui n'existe pas et à l'auteur qu'on voit pas forcément, mais aussi aux personnes de leur vie. Donc, ouais, il faut dire, il faut y aller.
Et là, d'ailleurs, dans votre livre, il y a un père qui va parler.
Alors, étonnamment, quand j'ai commencé à écrire ce livre, il n'y avait pas de père. Et bizarrement, il y a toujours des pères qui se faufilent. Et puis, il y a des histoires d'amour aussi entre des amants. Donc, oui, on se fait des surprises aussi en écrivant.
Il y a aussi des belles histoires d'amitié.
Oui, hein? bien sûr.
Votre roman plaide en faveur du don d'organes.
Oui.
Est-ce là le médecin qui parle, puisque vous étiez urgentiste avant de vous consacrer à l'écriture ?
Évidemment, je peux pas dire je ne comprends pas, bien sûr que je comprends. Mais se dire que une vie qui est arrêtée, malheureusement, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt ou qui est sur le point de mourir, en coma dépassé, avec des organes qui peuvent donner la vie, donner des amnées, donc donner des possibilités d'amour, de joie, de création à d'autres personnes. Évidemment que le don d'organes me paraît une évidence. Donc j'avais envie de parler de ça, oui.
Oui, ce sont de très belles pages d'ailleurs qui sont un petit peu tristes au début, évidemment. Je ne dévoilerai pas pourquoi. Mais en fait, avec les témoignages qui deviennent assez joyeuses, assez belles en tout cas.
Une vie en amène d'autres, oui. C'est... Alors maintenant, dans le temps, vous savez qu'avant une certaine loi, on devait dire « je souhaite donner mes organes » ou « je ne souhaite pas ». Alors que maintenant, tout le monde est supposé vouloir donner ses organes, sauf si on s'inscrit sur une liste en disant qu'on ne veut pas. Et c'est tellement important. Et ça m'a frappée, quand j'étais SOS médecin, j'ai un confrère qui a eu un accident de voiture. En sauvant quelqu'un, il s'est arrêté sur une voie d'arrêt d'urgence, il est allé sur un accident, et il y a une espèce de connard qui était beurré, conduisait, alors qu'il n'avait pas, il était sous le coup d'un retrait de permis déjà, et qui est rentré dans l'accident et qui a tué mon confrère. Et c'est la première fois qu'on a vu vraiment quelqu'un de jeune, qu'on connaît, qui était un ami, dont les organes, alors évidemment on n'a pas su à qui ces organes allaient, mais tout d'un coup c'est devenu vrai, c'est devenu pas seulement de la télévision ou de la médecine, mais de la réalité. Et j'avais envie dans ce livre en effet de faire qu'on puisse voir ce que ça change pour ceux qui attendent.
L'une des épigraphes de votre roman est une phrase de Jean-Louis Barrault, se passionner pour tout et ne tenir à rien.
Oui.
Pourquoi avez-vous choisi cette citation ? Est-ce qu'elle vous ressemble ?
Elle ne me ressemblait pas, elle me ressemble. Et alors on parle de la Penie et je parle de mon père, mais parce que le dernier été de sa vie, juste après mon bac, nous étions à l'hôtel à Évian avec mes parents et il y avait Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud. Il s'est passé quelque chose et on a passé une semaine à déjeuner et dîner ensemble, tout le temps. Et le jour de l'enterrement de mon père, qui était donc le 15 jours après, Jean-Louis Barrault m'a donné son livre. Et en exergue, il y avait « Se passionner pour tout et ne tenir à rien ». Je crois que le livre s'appelait « Souvenir pour demain ». Et sa dédicace, j'avais 17 ans, était à Lorraine Fouchet, pour garder éternel, enfin bon anniversaire, pour garder éternel sa jeunesse à parfum d'éternité. Et j'ai mis ce livre dans ma bibliothèque, il y a beaucoup de livres. Et en écrivant ce livre l'année dernière, un jour j'ai ressorti ce livre, je l'ai lu, et je me suis dit, mais voilà. Donc maintenant, cette phrase veut vraiment dire quelque chose. Je crois qu'il faut se passionner et ne pas tenir dans le sens ne pas retenir. Voilà. Il faut sauter dans le traîneau à chien, mais il ne faut pas en partir.
Merci beaucoup, Lorraine. Vous allez maintenant nous lire un extrait de Jamais là par hasard.
Ils sont arrivés dans ce pays glacial, époustouflés par la splendeur neigeuse de ce lieu aussi blanc qu'une page vierge. Le premier après-midi, l'histoire a failli mal finir. Le soir, l'aurore boréale a zébré le ciel de vert. Tard dans la nuit, la chaleur revigorante de l'alcool a galopé dans leurs organismes, foncé à travers leurs veines, comme les chiens du musher. Ils ont enchaîné les verres de Glögi, atteignant cet état d'ébriété où les inconnus deviennent frères et sœurs, où tout semble clair, limpide, où on ne craint plus la mort. La hutte les poussait à s'épancher devant les flammes crépitantes, à partager leur tremblement de vie. L'un des trois a posé la question, il ne saurait plus dire lequel. Les autres auraient pu hausser les épaules, botter en touche, éluder, changer de sujet. Mais ils ont pris la question au sérieux et chacun a répondu avec une déconcertante sincérité. Ils n'avaient aucune raison de penser que cette conversation au cœur de la nuit polaire changerait leur existence. Ainsi commence cette histoire.
Nous allons passer au questionnaire secret d'écriture.
Oui.
Alors, ma première question, votre mot préféré?
Alors, je triche un peu. C'est « je t'aime tout collé ». On a le droit de tricher. C'est vrai que, en écrivant ce livre, la question qui se posait était « quelles sont les années qui comptent le plus dans une vie ? Est-ce que ce sont celles de l'enfance, de la réussite professionnelle ou celles pendant lesquelles on aime ?» La personne qui pose cette question a sa réponse. Et moi, ma réponse est « je t'aime ».
Celui que vous détestez?
C'est l'absence. Alors vraiment, l'absence, alors on va dire absence, là je ne vais pas tricher. Il y a cette très belle chanson de Reggiani qui s'appelle « L'absence », qui commence par « c'est un volet qui bat, c'est une déchirure légère ». Et ah, l'absence, je supporte pas ça. C'est pas la solitude, c'est l'absence. Donc, oui, on va le haïr. C'est un mot chafouin et horrible.
Votre endroit préféré au monde?
C'est l'île bretonne de Groix. C'est vrai que c'est ma juste place, ma place juste et parfaite. Et quand je monte sur le bateau à Lorient, que le bateau corne, il y a aussi de la fumée. Ça sent un peu mauvais, 3 minutes. Ah, mais je respire à fond et je... C'est ma juste place, voilà.
Votre dernière lecture?
Ma dernière lecture, c'est un album jeunesse qui s'appelle « Les gens sont beaux ». C'est mon ami romancier et confrère médecin Baptiste Beaulieu qui l'a écrit. C'est tout simple et c'est merveilleux. Un grand-père, médecin à la retraite, explique à son petit-fils que chaque personne a une histoire, chaque corps, chaque cicatrice a une histoire. Et il marche dans la ville à travers son petit-fils en lui expliquant l'histoire des gens à travers ce qu'ils voient de leur corps. C'est un livre jeunesse, mais c'est bon pour les adultes aussi.
Votre prochaine lecture?
Alors, j'en ai deux. Une est en mars, c'est « Une nuit particulière » de Grégoire Delacour. C'est de la marqueterie quand cet auteur écrit. Et c'est vibrant, c'est beau. J'avais adoré « L'enfant réparé » qui était l'année dernière. Et j'ai hâte de lire celui-là. Et puis j'ai un second livre aussi qui est, que j'attends avec joie. C'est « Cabane de mer » d'Annabelle Combes. C'est puissant ce qu'elle écrit.
Quels sont vos moments privilégiés pour écrire?
Le matin. Quand j'étais SOS médecin, je me levais à 6h10 du matin. Là, je me lève à 9h. Je fais 7 minutes d'étirement. Ça s'appelle les rites tibétains. Comme ça, on a pas mal au dos quand on écrit. Après, je m'occupe des croquettes du chien et de la promenade du chien. deux cafés, deux tartines beurrées. J'ouvre mon MacBook et je me retrouve à l'île de Groix ou en Laponie, où on veut. Et je suis heureuse. C'est comme si je sortais du frigo une dune blanche comme dans le livre, c'est-à-dire un chou à la crème chantilly. Je me frotte les mains et j'y vais.
Pourquoi écrivez-vous ?
Parce que c'est le sens de ma vie, parce que c'est une nécessité et une évidence. Quand j'étais médecin, j'avais l'impression de soigner et de sauver des gens. J'ai commencé à écrire quand j'avais 18 ans. J'ai reposé mon stéto l'année de mes 40 ans, le jour où j'ai rédigé le certificat de décès d'une grande dame qui était Marguerite Duras. Donc, je suis rentrée à la maison. J'ai dit, j'ai publié des livres. Le reste de ma vie, je veux faire que ça. Ça épaule les gens, ça les accompagne. C'est une autre manière de soigner ou d'aider à vivre. Et c'est une joie. Moi, ça me donne une joie profonde. Jamais là, par hasard, je vais l'accompagner en lui tenant la main pendant 6 mois. Mais je piaffe déjà à l'idée d'écrire le livre de l'année prochaine. Donc, je dois être faite pour ça. Et en tout cas, ça me rend heureuse.
Vous ne souffrez jamais pendant l'écriture ? Il n'y a jamais des moments où vous peinez ?
Non. Il y a des moments où je suis émue. Comme je n'écris pas que des histoires de gens jeunes qui sont heureux au début, au milieu, à la fin, ça remue des émotions. Je puise dans mon propre fond de peine ou de peur. Donc ça peut être bouleversant, mais c'est jamais une souffrance. C'est pas toujours une paix ou un soulagement, mais c'est toujours un bonheur. Ouais. C'est une satisfaction profonde.
Où écrivez-vous ?
Alors, j'écris dans mon bureau, donc soit dans les Yvelines ou à Groix, toujours sur un MacBook, ce qui fait que je l'emporte où on veut. Mais j'ai toujours des petits carnets et des petits crayons Ikea, parce qu'ils ont la bonne taille, dans ma poche. Et tout fait bois pour le feu. Donc, ou dans mon bureau, mais où je veux, en fait. Dans la vie.
Écoutez-vous de la musique lorsque vous écrivez, et si oui, laquelle ?
Je ne peux pas écrire quand j'écris parce que ça me déconcentrerait. Mais pendant que j'écris, il y a toujours les personnages ont une musique et à la fin du livre, j'ai la BO du livre. Alors, mon éditrice associe que je trouve génial, c'est-à-dire que je crois qu'on télécharge l'application Lisez, on scanne la page. Et on entend toutes les musiques. Alors, il y a Dean Martin, My Rifle, My Pony and Me, mais il y a Vivaldi et il y a Les Copains d'abord de Brassens. Donc, chaque livre, chaque personnage a une musique. Mais je ne l'écris pas, je ne l'écoute pas quand j'écris.
Oui, parce que je précise qu'il y a la playlist à la fin de votre roman.
Pour les lecteurs.
Luttez-vous contre la page blanche et si oui, comment ?
Je ne lutte pas contre la page blanche, mais je lutte contre la page trop noire, qui est trop pleine de mots. C'est-à-dire que j'écris trop vite, et après je taille, j'émonde, je coupe, vraiment comme un arbre. Et d'abord, si on a tué des arbres pour faire du papier, on va les respecter et ne pas les gâcher. Mais c'est vrai que j'ai tendance à écrire trop facilement, mais ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est ça. Grégoire de la Cour, quand il écrit, il n'y a pas un mot de trop. Moi, j'en enlève beaucoup.
Contre quoi vous défendez-vous ?
J'ai réfléchi à cette question. C'est la seule question qui m'a mise en difficulté. Je n'ai pas l'impression de me défendre contre quelque chose ni contre quelqu'un. Sauf peut-être contre la solitude, peut-être que ma façon d'écrire, enfin ma façon de vivre, c'est-à-dire le fait d'écrire, fait que quand on écrit, on n'est jamais seul parce qu'on a des personnages de papier qui vivent avec vous pendant un an. Qu'étant fille unique, quand je rentrais de l'école, j'avais pas d'amis avec lesquels jouer, donc je lisais Enid Blyton ou des livres pour enfants, et quand j'avais fini mes livres, j'écrivais la suite. Avec les personnages créés par l'auteur. Donc, un écrivain n'est jamais seul et il y a un travail de deuil à la fin de chaque livre, c'est-à-dire on quitte ces amis-là, on se crée, on s'invente d'autres personnages de papier qu'on va re-laisser tomber l'année d'après, mais qui quand même restent dans nos têtes. Et le fait que sur les réseaux ou dans les dédicaces, moi j'adore les dédicaces, j'aime les rencontres. C'est pour ça que j'aimais la médecine d'urgence. J'aurais pas aimé faire de la recherche. Mais les rencontres en librairie, les dédicaces, ou répondre sur Facebook, sur Insta, les gens qui vont lire, qui aiment lire, ou même qui n'aiment pas mes livres, mais qui m'en parlent, tout ça nous empêche d'être seuls. Et la vie est courte ou longue, on ne sait jamais, mais dedans, il y a ce plaisir du partage, ce plaisir de rencontrer des humains, ou des animaux, ou ou la nature, et... Ah, j'ai envie d'ouvrir les bras et de les voir tous, quoi. Donc, voilà, c'est ma seule défense, c'est contre la solitude.
Merci beaucoup, Lorraine Fouché, d'être venue à Secret d'écriture. Et merci aux éditions Héloïse d'Ormesson. Je rappelle le titre de votre roman, « Jamais là par hasard », en librairie le 2 mars.
Et merci à vous. Et en lapon, enfin en finlandais, merci, ça se dit « kiitos ». Alors, kiitos.
Kiitos. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Pour découvrir les nouveaux coups de cœur de la rédaction et d'autres secrets d'écriture, rendez-vous en kiosque et sur le site de femmesactuelles.fr. À très bientôt.